tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Critique. Chaque mois sur La Grenouille, un auteur ou une auteure vient débroussailler en votre compagnie un champ de la pensée critique. Critique.
Un champ qui résonne avec l'actualité marseillaise.
Une émission proposée et présentée par Nicolas Heringer et Emmanuel Riondé.
À écouter maintenant dans tous vos états critiques.
Aujourd'hui sur La Grenouille, nous allons parler de genre, de sexualité, d'identité sexuelle et de féminisme avec notre invitée Elsa Dorlin. Elsa Dorlin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur à l'Université Paris 8 et avez notamment publié La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française aux éditions La Découverte. Depuis quelques mois, on n'a sans doute jamais autant parlé de genre, à la télé, à la radio, dans les journaux, voire même entre parents d'élèves. On n'a jamais autant parlé, mais on en a aussi, et peut-être surtout, sans doute jamais aussi mal parlé. Les clichés se sont enchaînés, l'homophobie, la lesbophobie, sans même parler de la transphobie, s'expriment sans complexe, y compris via de la violence physique. La droite s'est mobilisée avec force contre le mariage pour tous, et les risques que son adoption ferait peser sur la civilisation. Le genre est devenu une sorte de repoussoir, de mot tabou, surtout lorsqu'il est accolé à l'idée d'une théorie. On a alors vite fait de perdre de vue de ce dont il est vraiment question, de rapport de pouvoir et de domination. Le tout sur fond de division profonde au sein du mouvement féministe, que ce soit sur le voile ou la prostitution. C'est donc de tout cela dont nous allons essayer de parler aujourd'hui.
Critique.
L'entretien.
Bonjour Elsa Dorlin.
Bonjour.
Comme vient de le rappeler Nicolas, la question du genre occupe depuis un an une place importante dans le débat politique et médiatique en France. On aura l'occasion de revenir au cours de l'émission sur les étapes qui ont jalonné ces débats et sur ces différentes facettes. Mais je voudrais commencer par l'actualité la plus récente. Mi-janvier, des SMS ont circulé, invitant des parents à retirer leurs enfants de l'école pour protester contre l'enseignement supposé d'une certaine théorie du genre. L'ensemble du mouvement féministe s'est aussitôt élevé contre cette rumeur. Alors Elsa Dorlin, notre première question sera très simple. Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non la théorie du genre existe ?
La théorie du genre telle qu'on en a entendu parler, surtout en janvier, et puis en fait depuis quelques années, c'est plutôt une sorte d'invention absolue de la part de groupuscules, d'associations, voire de partis politiques d'extrême droite, qui sous l'expression théorie du genre, en fait, envoie une sorte constitue une sorte de complot, je dirais, qui consisterait à dire que il y a des théoriciens, des universitaires, des chercheurs militants, homosexuels, transsexuels, qui entament une sorte de campagne de prosélytisme, voire de conversion, à l'encontre des enfants, pour les inciter à l'homosexualité, pour leur parler de sexualité débridée, etc. Mais en fait, sous le terme théorie du genre, c'est vraiment typiquement le pur produit d'une pensée réactionnaire, conservatrice, qui en fait ressemble exactement à ce que pouvait être dans l'histoire des documents comme par exemple les protocoles des sages de Sion, c'est-à-dire des documents qui sont produits de toutes pièces. Et les protocoles des sages de Sion, par exemple, c'est un des documents majeurs de l'histoire de l'antisémitisme et qui, soi-disant, révélait le plan d'attaque des Juifs sur le monde. Et ben là, c'est pareil, la théorie du genre, c'est le plan d'attaque des homosexuels et du peuple pervers sur le monde, et principalement sur l'imaginaire de nos enfants.
On peut s'inquiéter, alors, parce que le protocole des sages de Sion, il est toujours...
Il est encore utilisé
de nos jours par certains.
Exactement.
Donc on peut dire que la théorie du genre a de beaux jours devant elle. Qu'est-ce que ça dit de la société française actuelle, le fait que cette rumeur, qui est donc une rumeur, ait eu un écho certain quand même?
Mais justement, c'est quand le parallèle que je fais avec les protocoles des sages de Sion, je le fais vraiment sciemment parce que ça ressemble tout à fait ça entretient cette idée du complot et d'une sorte, par exemple, de tout ce qu'on entend de l'ordre d'un lobby homosexuel, par exemple, à l'université ou
dans les médias.
Et en fait, on pourrait faire l'histoire de cette diabolisation d'un certain nombre de pensées critiques relatives à l'identité sexuelle, que ce soit de genre ou de sexualité, pour en faire l'histoire, parce que finalement, il y a quelques années, c'était plutôt sur la base de rumeurs qui relevaient d'un anti-américanisme primaire. Par exemple, c'est la théorie qui nous nous vient des États-Unis, c'est les genders, etc. C'était très rigolo d'en parler comme ça. Et ça venait des États-Unis. Alors, c'était sur le harcèlement sexuel. C'était, mais comment ça? On ne pourra plus ploter nos étudiantes comme on veut. Il faudra ouvrir la porte quand on les reçoit, etc. Enfin, il y avait toute une... ça venait des États-Unis et c'était bizarre parce qu'en France, finalement, on n'avait pas besoin de ces histoires sur le genre, sur la sexualité. Là, maintenant, ça a pris une autre envergure, en fait. C'est plus, ça vient plus spécialement des États-Unis, c'est ici, en France. C'est un lobby et qui vient nous expliquer que la différence sexuelle, ça n'existe pas. Donc, on voit bien que ça a des ramifications avec des intérêts politiques qui sont évidemment contre la loi sur le mariage pour tous. Mais plus généralement, qui sont aussi sur toute la question du rapport de pouvoir, du rapport de genre comme rapport de pouvoir. Et là, on essaye juste de nous dire que le genre, enfin, les questions de différence sexuelle, c'est pas du pouvoir, c'est pas politique, ça n'a rien à voir avec un rapport de domination, c'est la nature. Et donc, on va diaboliser toutes les conceptualisations, représentations, contenus de savoir qui tentent de déconstruire, en fait, cette idée de nature.
Et il y a une sorte d'inversion, c'est-à-dire que on dit que ceux qui ont le pouvoir, c'est précisément ce lobby-là ou ceux qui voudraient endoctriner la jeunesse via les ouvrages pour enfants, Tous à poil ou d'autres qui sont pointés du doigt. Donc il y a aussi ce mécanisme d'inversion, quoi.
Exactement. C'est vraiment l'idée. En plus, ça relève de conceptions, par exemple, de l'éducation, du rôle de l'éducation qui est assez singulière. C'est-à-dire, l'éducation viendrait comme confirmer ce qui relèverait de la nature. Et tout ce qui tenterait d'interroger, de déconstruire, de ramener aux rapports sociaux, enfin, en tout cas, de susciter de la non-évidence, serait voué à la minorité, à l'exclusion, à la stigmatisation, comme des théories subversives qui viendraient justement pervertir nos enfants.
Et du coup, face à cette offensive, le gouvernement a assez vite battu en retraite en disant... Il n'y a pas de théorie du genre, mais le fait est qu'il y a de la théorie, mais qui est produite par des études. Voilà, donc il y a des connaissances et qui sont en partie subversives quand même.
Ouais, en fait, je pense que c'est là le plus inquiétant. Parce que qui est ce genre de discours complotiste, homophobe, transphobe, etc. Bon, de la part d'une certaine extrême droite conservatrice et même d'une droite conservatrice, c'est pas très nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la contre-attaque. C'est-à-dire que finalement, on a vu un certain nombre de personnalités de gauche, et à commencer par le ministre de l'Éducation nationale, dire « Attendez, mais personne ne remet en question la différence des sexes. Nous ne parlons que des stéréotypes ou des inégalités les plus crasses entre hommes et femmes et filles et garçons, mais le reste, on s'en occupe pas. » Donc, et effectivement... Il ne s'agit pas de théorie et il ne s'agit pas, certainement pas, de pensée critique, subversive par rapport à ce qui relève d'un rapport de pouvoir. On imagine mal, par exemple, si on fait la comparaison avec le racisme, par exemple, quelqu'un qui dirait, attendez, sur toute l'histoire des pensées antiracistes et qui ont déconstruit tout le racisme biologique, ne remettent surtout pas en question la biologie, ne remettent surtout pas en question la hiérarchie. Ce serait impossible. Et là, pourtant, on a eu de la part, surtout finalement, je pense, un discours officiel de l'Éducation nationale qui était très, très problématique.
Alors, peut-être du coup, dire ce que c'est que les gender studies, puisque c'est de ça dont il s'agit là, qui produisent de la théorie.
Oui,
pour
parce que, y compris du côté d'universitaires, de chercheurs, de chercheuses qui travaillent dans les études de genre, on a même entendu une réaction qui disait « Attention, la théorie du genre, ça n'existe pas ». Alors oui, la théorie du genre n'existe pas, mais ce n'est pas pour ça que dans les études de genre, on ne produit pas de la théorie. Ce sont un champ d'études qui travaille sur, la féminité, par exemple, ou les femmes, mais qui travaille sur un rapport de différenciation, un rapport de pouvoir entre et qui produit des groupes sociaux, les hommes et les femmes, et qui produit aussi ces groupes en leur collant, octroyant, associant des valeurs liées au masculin et au féminin, qui sont des valeurs qui ont un rapport hiérarchique entre elles. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas féminin et masculin, et tout ce qui est et inversement, et avec cette idée qu'il y a certaines valeurs ou au repos de la féminité qui sont évidemment considérées comme inférieures socialement ou symboliquement à ce qui relève de la masculinité. Enfin, c'est tout ce travail-là, tout ce rapport qui est travaillé par les études de genre et dans plusieurs disciplines d'ailleurs, la sociologie, l'histoire, la philosophie, l'histoire de l'art, l'histoire des sciences, etc. Et ça produit de la théorie, ça produit beaucoup de théorie parce qu'il y a une puissance critique en fait. La théorie, elle vient surtout du fait qu'on interroge ce qui semble être évident, qu'on interroge ce qui semble relever de la nature, qu'on interroge ce qu'on renvoie constamment à soi-disant la biologie, comme si la biologie c'était pas aussi une discipline qui avait sa propre épistémologie, qui interrogeait l'histoire, l'histoire des corps, et qui faisait retour également sur ses résultats.
Et biologie qui produit des catégories qu'on croit figées, mais qui ne l'étaient pas elles-mêmes, elles ont évolué à travers l'histoire, même récente en fait.
Mais en fait, c'est hallucinant parce qu'on a même entendu justement du côté de l'éducation nationale ou de personnalités scientifiques dire oui, on ne remet pas en question ce que nous dit la biologie. Mais de quelle biologie parle-t-on en fait? La plupart des références sont de la biologie du 19e siècle, vraiment. Parce que si on prend la biologie contemporaine, les études d'embryologie ou toutes les conceptualisations de la différence sexuelle, là aujourd'hui contemporaine, l'idée selon laquelle l'humanité sera divisée en deux sexes distincts, elle est pas du tout évidente, et en tout cas elle relève pas d'un savoir biologique si on s'en tient à des catégories biologiques qui n'ont de réalité que parce qu'elles rendent intelligible une pluralité de corps, de fonctionnement physiologique, ben on pourrait très bien avoir au minimum 5 sexes biologiques.
Oui, 5 sexes.
Ouais.
C'est les fameux catégories.
Si on prend les sexes comme des catégories, c'est des catégories qui relèvent d'un nominalisme, c'est-à-dire ce sont des catégories qui sont pas des catégories de la nature, mais qui sont des catégories que produisent la science pour mieux comprendre la nature. Eh bien, certaines biologistes contemporaines, travaux de biologie, montrent qu'il faudrait au moins avoir 5 catégories sexuelles pour comprendre la pluralité des configurations sexuées de l'espèce humaine aujourd'hui. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de dire les corps n'ont pas de sexe. Bien sûr, nous sommes sexués, nous sommes une espèce sexuée et nos corps sont sexués. Mais cette sexuation, elle ne peut pas être répartie en deux catégories distinctes, homogènes, antagoniques, que sont les catégories de l'état civil, hommes et femmes. C'est ça l'idée.
Et c'est là qu'intervient aussi ce que vous et d'autres appelez la dimension performative, c'est-à-dire qu'en assignant deux catégories, on les fabrique.
Voilà, en fait, ces deux catégories-là, la différence des sexes ou la différence sexuelle, elle est éminemment sociale, symbolique, culturelle. Et alors, ça ne veut pas dire qu'elle serait moins forte que la nature. Hein. Elle peut être tout aussi contraignante, précisément parce que toute la société joue cette performance. En tout cas, appréhende la différence de façon performative, c'est-à-dire le fait qu'on est constamment interpellé comme des individus à travers des interpellations qui nous renvoient constamment à ce qui serait notre identité profonde, c'est-à-dire notre identité homme ou femme. Ce qui par là même produit cette identité comme constitutive de nous-mêmes. Mais de fait, si vous voulez, quand on dit à un nourrisson, parce qu'on sait que c'est une fille, la petite princesse, et quand on dit à un nourrisson garçon, parce qu'on sait que c'est un petit garçon, le petit costaud, on est en train de produire justement des êtres et des individus genrés. Well, there's nothing wrong with a woman having two men. Every woman should have at least two men. If you don't, there's something wrong. I mean, guys do it all the time. Guys have a woman on this side of town, the other side of town. They have a woman in another city. Why shouldn't we? Generation sex respects the rights of girls who wanna take their clothes off. You wouldn't leave your kids with shouts up with their hair.
take snaps through telephoto lenses, chase Mercedes Benzes through the night. The morning nation weeps and wails, but keeps the sails. The evil tabloids healthy, the poor protect the wealthy in this world. Into the eggs of real mice, so you can look real nice for the boys. And generation sex is me and you and we should really all know better. It really doesn't matter what you say.
Somebody that's white as a key, making me happy, then there's somebody my same color, and we'd be miserable the rest of my life.
L'entretien.
Alors Elsa Dorlin, on a commencé à parler un tout petit peu d'histoire, d'histoire du genre, d'histoire de la différenciation sexuelle. On va revenir maintenant un peu dessus, après ce morceau de Divine Comedy, Generation Sex, qui date déjà un peu de 1998. Donc dans votre ouvrage sur la matrice de la race, vous faites un peu une généalogie croisée du sexe et de la race. Vous travaillez un peu sur les correspondances. Et parmi ces correspondances, il y a des choses qui se situent un peu aux confins de la médecine, de l'hygiène, de la biologie, comme on le disait tout à l'heure. Et notamment cette idée que les femmes ont des corps malades, des corps sales, des corps humides, des corps dont il faut se protéger ou qu'il faut soigner, qu'il faut tromper.
En fait, le travail, il est parti d'abord d'une réflexion sur l'émergence du sexisme moderne, c'est-à-dire précisément de comment, à un moment donné, la référence au corps, à la nature, est devenue centrale pour produire la différenciation. La différenciation entre dont le résultat est un groupe social qui sont les femmes et qui occupent des positions inférieures. Et en fait, c'est en travaillant donc sur l'émergence d'un discours médical qui est devenu, à un moment donné, le discours légitime pour justifier cette infériorité des femmes, que je suis littéralement tombée sur la généralisation de ce modèle à la différenciation raciale. Puisqu'en fait, on se situe à une période historique qui est la fin du XVIIe siècle, le début du XVIIIe siècle, où les femmes sont infériorisées progressivement au nom de leur nature. Et au même instant, en fait, l'intensification du commerce triangulaire et de la généralisation du trafic négrier, et notamment l'explosion des colonies sucrières pour les Antilles françaises, a fait qu'il fallait justifier l'infériorité des esclaves au nom de leur nature. Et on a exactement... C'est pour ça que c'est même pas un modèle, je peux pas dire. Il y a d'abord eu le modèle de la différenciation sexuelle qui est devenu justement... qui a permis de penser la différenciation raciale. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une généalogie commune. On a besoin des deux, au fond. Qui se situe au même moment et qui va employer un argument phare qui n'est pas l'infériorité physique, par exemple. Parce que ça serait beaucoup trop facile. On sait très bien que la paysanne du coin, elle est bien plus forte physiquement que le noble qui pourrit dans ses vapeurs, dans son cabinet, de son château pas chauffé, quoi. Le problème, c'était de montrer que l'infériorité physique, elle était située sur la maladie, sur l'aspect malsain. Et les femmes, du fait des grossesses et du fait, évidemment, des accouchements et du très fort taux, évidemment, de mortalité des femmes en couche, eh bien, on avait une sorte de phénomène morbide qui était tellement présent qu'on disait, voilà, c'est un corps qui est inférieur, non pas parce qu'il est physiquement inférieur, moralement inférieur, intellectuellement inférieur, mais parce qu'il est malade, il est constamment malade. Et finalement, on va employer exactement le même argument pour justifier l'infériorité des Noirs par rapport aux Blancs. Le corps noir est un corps malsain, comme le corps féminin.
Mais ce transfert des catégories, ça va se faire à dessein ou ça va être quelque chose qui va émerger de façon...
Après, encore une fois, s'il n'y a pas une seule... c'est pas monocausaliste, quoi. On ne s'est pas dit à un moment donné, tiens, ça marche tellement bien sur les femmes qu'on va le faire sur les, sur les esclaves. C'est plus... Il y a plusieurs choses. Alors, je pense que c'est vraiment dans le cadre, d'une part, de l'impérialisme. Donc, c'est à la fois essayer de travailler sur une infériorisation des femmes dans le cadre d'une incitation à la reproduction. Donc, il faut les maintenir dans cette place sociale qu'est le travail reproductif. Il faut qu'elles, voilà, qu'elles produisent des individus pour la nation. Et puis, dans le cadre de l'Empire... Eh bien, cette nation, elle s'oppose aussi, enfin, ou en tout cas, elle s'articule avec ces territoires extramarins, où là, il faut justifier de la domination d'une minorité de blancs sur une majorité d'esclaves. Et ce qui marche, encore une fois, c'est l'idée de l'infériorité liée à la maladie et à la dimension pathogène du corps, en fait. Et ça, on va le retrouver dans l'antisémitisme, par exemple, au XIXe siècle. Donc c'est un schéma qui va être très efficace de ce point de vue-là. Et finalement, même encore aujourd'hui, sur certains discours racistes à l'encontre notamment des populations roms, on voit bien comment la dimension pathogène des corps, elle est constamment mise en avant.
Donc c'est par ce biais-là qu'on naturalise en fait un peu des rapports de domination qui sont sociaux. Ouais,
c'est la voie royale du naturalisme en fait. En tout cas, ce que j'ai essayé de montrer, c'est pas vraiment ce discours relativement naïf de l'infériorité physique, hein, mais c'est plutôt l'idée d'un corps qui transmet de la maladie, qui est malade et qui transmet de la maladie.
D'accord. Ce corps maladif de la femme, tel que donc vous expliquez assez longuement au début de votre ouvrage La matrice de la race, comment ça se met en place. Ce corps maladif valétudinaire, j'ai appris un mot en lisant votre livre, à un moment donné, il va entrer, peut-être, si j'ai bien compris, il va entrer en confrontation avec les besoins de la politique populationniste. Et là, on arrive à la constitution de la nation. Et à ce moment-là, c'est la figure de la mère saine qui va être opposée à celle de ce corps maladif, mais aussi... hystérique, nymphomane, enfin, ouais. Vous faites l'étalage, enfin, la liste de tout ça. Ça, c'est un moment important aussi, ce moment où la nation a besoin de récupérer finalement le corps de la femme pour en faire autre chose.
Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a, en fait, je pense qu'il y a trois éléments importants. C'est d'une part l'idée de ce corps pathogène, c'est l'idée aussi que les pathologies, elles ne sont pas existantes. On les produit, c'est-à-dire qu'il y a une pathologisation des corps. Donc il y a vraiment cette dimension très importante. C'est pas l'idée que ce corps a une maladie parce que c'est déjà là, c'est qu'on va pathologiser un certain nombre de caractéristiques, notamment liées à la sexualité, donc typiquement la nymphomanie, l'hystérie, etc. Mais le deuxième élément, c'est là où en fait là pour le coup il y a un second étage en termes d'historicisation du dispositif, c'est l'idée qu'à un moment donné, dire les femmes, les esclaves sont inférieurs aux hommes, aux blancs, ça pose un problème parce que ça me pose un problème effectivement au moment où on a besoin de dire nous sommes une nation forte comparée par exemple aux Anglais qui sont eux-mêmes une nation conquérante, comparée aux Espagnols. Et justement cette idée que d'aller de la colonisation au XVIIIe siècle, ça crée une peur très forte par rapport aux États-nations naissants, c'est l'idée de la dépopulation. C'est-à-dire, il faut qu'on ait, pour aller coloniser, y compris, il faut être une nation forte. Et là, à un moment donné, de dire les femmes sont faibles, elles meurent en couche, elles coulent, elles sont pleines de vapeur, et ben, ça signifie clairement qu'elles vont faire des enfants chétifs, faibles, et qui ne pourront pas justement constituer la force de la nation. Et donc, il y aura une contradiction fondamentale, et c'est pour ça... troisième élément, si vous voulez, qu'on va avoir, c'est non seulement la question de la pathologisation, c'est la question du nationalisme, mais c'est la question aussi de dire toutes les femmes sont inférieures aux hommes. Dans un dispositif impérial, ça ne marche pas, parce que toutes les femmes blanches ne peuvent pas être inférieures aux hommes noirs. Mmh. Donc il va falloir différencier. Et alors, on va différencier de telle sorte qu'on va dire à un moment donné, certaines femmes... elles font des bons enfants, elles sont fortes, sont les mères de la nation. Et celles-là, elles seront blanches, elles seront bourgeoises. Et elles seront, ce sera elles les mères de la nation. Et les autres, les domestiques, les esclaves, les juives, les colonisés, ce seront les prostituées. Elles seront complètement exclues. Non pas de la maternité, parce qu'elles vont faire des enfants, hein, mais elles seront exclues des bénéfices sociaux et symboliques de la maternité, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas reconnues comme mères. Et ça, c'est que ça va durer jusqu'à une période très récente, parce qu'il faut toujours avoir en tête que jusque dans les années 70, il y a un des manifestes phares du MLF français pour le droit à la contraception et à l'avortement, qui dit « les métropolitaines sont enjoints à la reproduction, alors que nos sœurs dans les dom-tom, sont stérilisés de force et exclus des bénéfices symboliques de la maternité. Donc les stérilisations forcées, c'était encore d'actualité dans les dom-tom au XXe siècle.
Alors, en parallèle à cette généalogie que vous faites, vous travaillez aussi sur des philosophes, des penseuses, notamment du XVIIe ou du XVIIIe, des philosophes qui critiquaient cela, donc qui sont... pas forcément parmi les philosophes auxquels on pense le plus souvent ou qui sont le plus étudiés, mais il y avait aussi, contemporain à cette construction de la matrice de la race et de la domination des hommes sur les femmes, une contre-pensée, une pensée critique.
Toujours, mais moi ce qui m'intéresse, c'est à la fois de travailler sur les généalogies, ou les idéologies dominantes. Mais ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est de voir comment ces rapports de domination, ces pensées de la domination ont toujours été grévées, balayées, mis à mal par des contre-pensées, des pensées contre-hégémoniques, des philosophies hétérodoxes, etc. Et c'est pour ça que ce qui m'intéressait de montrer, c'est que même au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, à un moment donné où se met en place cette idéologie naturaliste, il y a des philosophies de l'égalité, il y a des philosophes, des femmes philosophes comme Gabrielle Suchon, qui, à la fin du XVIIe siècle, clament haut et fort que la différence de nature entre les hommes et les femmes, c'est un pur instrument pour leur inculquer une place de subalterne, mais que cette place, elle n'est pas du tout, elle ne relève pas d'un ordre naturel. Et qu'il faut donc se révolter. Donc c'est plutôt cette généalogie aussi des pensées de la révolte qui m'intéresse.
Et vous terminez donc le livre dont on parle, hein, La matrice de la race, par un exemple aussi de société qui a réussi à l'abolir, les Caraïbes noires.
Oui, mais là encore, c'est de montrer que même à un moment donné, la période la plus intense dans le commerce négrier, il y a des expériences, ça résiste, il y a des révoltes, ça résiste, et il y a des hétérotopies, il y a à un moment donné aussi des lignes de fuite. Les Caraïbes noires, c'est un bateau chargé d'esclaves qui s'échoue à Saint-Vincent, sur l'île de Saint-Vincent, et l'île de Saint-Vincent, elle avait été laissée par les traités aux Caraïbes qui sont massacrés sur l'ensemble des autres archipels des Antilles, et on leur a juste laissé ce territoire de Saint-Vincent. Un bateau négrier s'échoue au large de Saint-Vincent, et une partie des hommes rasiés depuis le continent africain réussissent à retrouver les rives de Saint-Vincent. Les Caraïbes rouges vont accueillir ces hommes et ces femmes, ils vont faire communauté et ils vont être connus comme les Caraïbes noires, et pendant des décennies, ils vont se battre contre les bateaux anglais et français qui tentent de récupérer cette cargaison.
Samedi 11 janvier 2014, il est environ 15h et sur le vieux port de Marseille, une foule commence à se rassembler. Au total, ce sont une centaine de personnes, des hommes, mais surtout des femmes qui s'unissent aujourd'hui pour une cause, la lutte contre un projet de loi qui pourrait supprimer le droit à l'avortement en Espagne.
Sur ce qu'il y a écrit sur votre pancarte.
Espagnol.
Ah, il y a écrit « Mi cuerpo es mío, yo decido ». Ce qui veut dire que mon corps est à moi et c'est moi qui décide. Et en dessous, il y a marqué « Aborto libre y gratuito ». Ça veut dire l'avortement gratuit et libre. Concrètement, c'est que l'Espagne est en train de remettre en cause l'IVG pour les femmes espagnoles. Et ce que ça veut dire, c'est que si les femmes elles peuvent pas avorter librement et de manière gratuite et sécurisée, ce sera des avortements clandestins qui auront lieu. Et ça, ça veut dire des dangers pour la femme, des dangers pour la santé des Espagnols. Et voilà, c'est calamiteux. On fait un bond en arrière de 30-50 ans. Nos mères, nos grands-mères se sont battues pour le droit à l'avortement, le droit à disposer librement de leur corps. Et d'être obligées aujourd'hui, en 2014, de recommencer, de se battre à nouveau pour cet acquis, c'est tout simplement scandaleux.
Cette loi a été approuvée le 20 décembre dernier. Le chef conservateur du pays, Mariano Rajoy, avait fait de ce projet de loi une promesse phare de sa campagne en 2011. Avant cela, la liberté d'avorter existait depuis 2010 en Espagne. Et si l'opposition des femmes et de nombreuses associations est forte dans le pays concerné, le reste de l'Europe se mobilise aussi, y compris en France. Et après Perpignan et Montpellier, c'est au tour des Marseillais et Marseillaises de donner de la voix.
Je m'appelle Annette Guidi et je suis une militante depuis longtemps du planning familial. Je ne voudrais pas que ces droits qui étaient aux Espagnols leur soient enlevés.
Nous sommes ici suite au changement des conditions d'accès à l'avortement en Espagne, qui ont été drastiquement réduites. Et on est là pour soutenir les personnes qui sont en lutte en Espagne contre ces lois-là, pour dire notre inquiétude en tant qu'Européens. Pour dire les choix qui peuvent être faits, que le droit à l'avortement était un choix qui est essentiel, qui est le droit de la femme à disposer de son corps, qui est une liberté essentielle de chaque personne dans une société, on va dire, évoluée.
Cette mobilisation se fait à l'appel de plusieurs associations de défense des droits des femmes, parmi lesquelles le Forum Femmes Méditerranée, le collectif 13 Droits des Femmes ou encore le Planning Familial. Alors Esther Fouchier, vous êtes organisatrice du Forum Femmes Méditerranée et présidente du collectif 13 Droits des Femmes. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure et les objectifs?
Alors le collectif 13, c'est 30 associations, syndicats et partis qui agissent au niveau local et international autour de valeurs de liberté, égalité, solidarité, dignité des femmes. Et nous préparons en 2015 la 5e marche mondiale des femmes. Alors d'abord, nous sommes ici réunis samedi 11 janvier pour manifester pour les droits des femmes espagnoles. Vous savez qu'à la fin de l'année, le Conseil des ministres espagnols, composé essentiellement d'hommes que des hommes, a décidé de revenir sur un droit fondamental que les femmes espagnoles avaient acquis de haute lutte, le droit à l'avortement, c'est-à-dire le droit de choisir librement d'avoir ou pas des enfants au moment où elles le souhaitent. Ce qui fait qu'avec ce projet de loi, le nouveau gouvernement espagnol refuse le droit d'avorter, ça sera l'obligation d'infanter. Et ça, c'est très grave parce que l'Espagne nous avait donné la voie, nous avait montré la voie, nous, féministes françaises et démocrates français et françaises, parce que l'Espagne était très en avance dans le combat pour l'égalité. Contre les violences, elles avaient adopté une loi cadre. Pour l'avortement, c'était 14 semaines au lieu de 12 semaines en France. Il y avait beaucoup d'avancées. Et cette régression nous fait très peur. Alors donc, nous avons appelé les organisations syndicales, les associations de femmes à manifester dans toutes les villes d'Europe aujourd'hui. Et le 1er février, nous organisons le train de la liberté. De toutes les villes d'Europe partiront des hommes et des femmes qui iront à Madrid pour rejoindre et pour soutenir les féministes espagnoles.
En décembre dernier, vous étiez allé au consulat d'Espagne.
Oui.
Et vous avez eu un entretien également.
Oui.
Est-ce que justement vous avez eu depuis des retours sur cet entretien de la part du gouvernement?
Alors, c'est un bras de fer. Nous n'avons pas eu de nouvelles. Eux, ils font tout pour faire passer leur loi et pour qu'elle passe en Europe. Et nous allons tout faire pour, dans l'autre sens, aller vers le sens de la liberté et de la dignité des femmes. Sachez que dans toutes les villes européennes, il y a déjà des manifestations. Mais le gouvernement rétrograde, le gouvernement du Parti populaire espagnol, a décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir de l'Espagne pour que dans tous les pays d'Europe, il n'y ait plus l'avortement. Et c'est un conflit, si vous voulez, entre les démocrates, les féministes, ceux qui défendent l'égalité des femmes et ceux qui sont rétrogrades, que ce soit les islamistes, les intégristes religieux catholiques, les intégristes juifs. Toutes les religions sont contre les droits des femmes et toutes les religions s'unissent ensemble et veulent qu'en Europe, l'avortement ne soit plus libre ni gratuit.
Est-ce que vous pensez qu'une situation comme celle de l'Espagne peut avoir un impact direct sur la situation européenne au niveau de l'avortement en général ?
Oui, parce qu'il y a déjà en ce moment en Pologne, les avis sont partagés en Pologne. Et si l'Espagne, les droits des femmes régressent en Espagne, ils vont en Pologne, il y aura automatiquement, parce que c'est un pays très catholique, de même que Malte et l'Irlande, ça sera encore plus dur pour les femmes et ça sera vraiment une régression. Donc je pense qu'il faut à tout prix gagner en Espagne pour après gagner en Irlande, gagner à Malte et gagner en Pologne. Il faut que s'élargissent les droits des femmes plutôt qu'ils soient restreints.
Et juste un rappel au niveau de cette loi, elle autorise l'avortement, mais dans certains cas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ?
Oui,
dans
deux cas. Si la femme a été violée, et s'il est prouvé par deux médecins qui signent le papier que l'enfant est un enfant s'il y a des défauts physiques. C'est les deux uniquement deux restrictions très. Les mineurs ne pourront pas, les femmes qui veulent ne pourront pas, comme c'était le cas à présent. C'est vraiment l'obligation d'infanter. Et ça, nous sommes contre cette politique nationaliste de ce gouvernement réactionnaire.
Justement, qu'est-ce qui se passait pour les femmes espagnoles ?
Si cette loi passe, ça veut dire que l'Église catholique a gagné, ça veut dire que les rétrogrades ont gagné en Europe. Et c'est pour ça qu'on en fait un combat européen et que nous allons nous rendre vers le bureau de l'Union européenne à Marseille, au CMCI. Voilà.
Donc le message du jour, c'est ?
L'égalité, la liberté, l'émancipation des femmes par la maîtrise de leur corps.
L'IVG, on s'est battu pour la gagner, on se bat pas pour la garder.
Critique marseillaise en mouvement.
Voilà, donc c'était un reportage réalisé par Radio Grenouille à Marseille sur une manifestation qui a eu lieu il y a quelques semaines,
en janvier,
et de personnes qui venaient au soutien des femmes espagnoles dont où le droit à l'avortement est remis en question par le gouvernement actuel. Ça, c'est un combat qui aujourd'hui continue de faire l'unanimité consensus au sein du mouvement féministe. C'est pas le cas de tous les sujets. Elsa, sur l'avortement.
Et ça montre, d'une part, oui, ça fait consensus là sur l'ensemble du mouvement féministe et des féministes. C'est voilà, on sera toutes à chaque fois dans la rue, mais plus fondamentalement, ça montre aussi la force de l'antiféminisme et son actualité, et que le moindre acquis, y compris ce qui nous semble l'acquis le plus important, le plus fondamental du XXe siècle, peut être remis en question en Espagne, ce qui semble incroyable. Donc ça montre la puissance, la force des réactions antiféministes contre les femmes, contre le droit des femmes, y compris sur les droits les plus, encore une fois, les plus précieux et les plus les droits premiers.
Mais en revanche, ça, il y a des lignes de fracture, des divisions assez profondes. On l'a vu, par exemple, le 8 mars, donc c'était la journée mondiale du droit des femmes. Dans plusieurs villes de France, il y avait deux cortèges. Un cortège les plus massifs, assez généraux, autour de la défense du droit des femmes en général. Et des cortèges se revendiquant au camp du 8 mars pour toutes, avec des femmes voilées, des prostituées. Donc, au moins deux lignes de fracture autour du voile et de la prostitution. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces lignes de fracture du féminisme ?
Alors ça, c'est quand même une configuration particulièrement liée aussi au contexte français, métropolitain. Mmh. Et l'idée qu'il y a deux cortèges pour le 8 mars, c'est finalement, on va fêter les 10 ans de ces deux cortèges,
ouais,
en fait.
Ouais.
Puisque ça fait depuis 2004. En 2004, il y a eu vraiment une scission au sein du mouvement féministe et ça s'est fait sur la question de la législation
sur le voile,
sur l'interdiction du voile à l'école et notamment aussi contre, il faut le rappeler, Ni pute ni soumise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ni pute ni soumise, qui avait pris le cortège du 8 mars 2004, a clairement aussi exclu, enfin il y a eu un conflit très fort sur le trottoir entre plusieurs féministes et la décision de faire cortège séparé à partir de là, puisqu'il y avait l'idée que c'était quelque chose n'était plus audible, n'était plus entendable au sein du féminisme. Des positions étaient devenues à ce point conflictuelles que certaines étaient taxées d'antiféministes, voire de traîtresse à la cause féministe ou de complice au patriarcat. Et ça, c'est vraiment les militantes féministes musulmanes voilées, les militantes féministes travaillant dans le domaine prostitutionnel qui en ont fait les frais et qui ont été depuis 10 ans ostracisées, exclues. Et aussi une partie du mouvement en tout cas qui rassemble un peu le mouvement queer, si on peut dire, en France, ou plutôt transpédéguine, voilà, qui fait partie de la minorité sexuelle radicale, enfin, et politisée du mouvement féministe, oui, parce et que du mouvement trans, enfin voilà, puisqu'il y a aussi les militants trans.
Parce que comme autre point de division, il y a effectivement l'élargissement de la PMA, de la procréation médicalement assistée, aux couples de même sexe, et plus encore la GPA, la gestation pour autrui.
Voilà, mais alors là, on va, en fait, il y a évidemment trois sujets qui fâchent, la question des législations sur les ports sur le port du voile, les diverses législations, la question des législations concernant la prostitution et la question de la PMA et la GPA. Et c'est vrai que dans le débat actuel, notamment concernant la discussion sur la PMA à l'occasion de la loi sur le mariage pour tous, on a vu très peu les militantes féministes mainstream ou les plus connus ou les plus médiatisés ou les plus représentatifs prendre position sur cette idée du droit à la PMA pour les femmes lesbiennes ou les femmes célibataires. Et en ce qui concerne la GPA, je pense que c'est encore un autre débat. C'est pas exactement la même chose que sur la PMA. Enfin, en tout cas, les enjeux sont pas exactement les mêmes. Mais finalement, la GPA est un débat beaucoup plus classique pour le mouvement féministe, pour la pensée féministe en général, parce que la GPA, ça pose la question de la division du travail reproductif. Voilà, c'est-à-dire comment à un moment donné la question de la reproduction, eh bien, ça peut être qualifié de travail, et ce travail fait l'objet d'une division sexuelle, et par conséquent ça pose la question de la rétribution éventuelle de ce travail, la reconnaissance de cette activité comme un travail, et ça, je pense que ça concerne toutes les femmes. Donc en fait, je crois vraiment que la GPA, en fait, ça a l'air d'être une question absolument inintelligible pour des questions de marchandisation des corps, d'exploitation, etc. Mais en fait, ça pose au cœur du débat la question de l'exploitation des femmes en tant que travailleuses.
Alors justement, Elsa Dorlin, le week-end dernier, vous avez débattu dans les colonnes du Monde avec Sylviana Gazinski. C'était donc à l'occasion de la journée du 8 mars, c'était sur une double page intitulée « Un féminisme de nouveau genre, point d'interrogation ». Et la première question que vous pose le journaliste, c'est pourquoi les différences entre les féminismes semblent-elles davantage portées sur des problèmes moraux que sur des problèmes sociaux ? Il me semble que là, on est un peu au cœur de ce que vous disiez. Vous répondez, les femmes musulmanes portant un foulard, les lesbiennes, les célibataires ou les personnes prostituées ne renvoient pas à des questions de société ou morale quand les femmes salariées, les retraitées ou les ménagères posent des problèmes authentiquement politiques de justice sociale. Le fait de vouloir assimiler les unes à des problèmes moraux, les autres à des problèmes sociaux, témoigne plutôt d'une crise au sein même de l'agenda politique du féminisme.
Oui, parce que je crois sincèrement que l'ensemble de ces conflits qui traversent le féminisme, ça devrait nous interroger non pas sur qui est féministe ou qui ne l'est pas, ça depuis longtemps, et d'ailleurs il faut remercier Christine Delphi notamment dans un texte pour nous avoir rappelé que l'idée de l'étiquette féministe, ça devrait pas être un enjeu politique, c'est-à-dire toute personne qui se dit féministe, elle est féministe, point barre, ça veut juste dire qu'il y a du conflit dans le mouvement. Mais en revanche, je crois que là où ça devrait nous faire réfléchir, où on devrait à un moment donné se poser, c'est de dire mais quel est l'agenda politique du mouvement, et quel est et même y compris de remettre en cause notre répertoire d'action. Enfin, de mon point de vue, par exemple, je pense que sur un certain nombre de questions se pose la question de la solidarité, se pose la question de comment on politise une question, et est-ce qu'on se laisse enfermer dans le cadre théorique, politique, qu'on nous impose pour penser des questions qui nous concernent. Et la dernière chose, c'est de dire que, enfin, parmi les actions qu'on a à disposition, visiblement, il y en a plusieurs qui sont, à mon sens, un peu, qui ont montré leurs limites. Pourquoi ne pas réactualiser, réaffirmer ou réutiliser la question de la grève, des ventres, la grève du sexe, une partie des groupes féministes l'ont fait en Europe. Pourquoi ne pas aussi essayer de repenser la question de l'action directe, par exemple. Voilà, on nous a beaucoup servi les femmes comme action directe féministe, mais c'est sous une forme un peu mascaradisée, mais ça pose vraiment, à mon sens, toutes ces débats-là devraient, en tout cas, nous alerter sur la façon dont nous voyons le mouvement, comment on politise les choses et comment on agit, en fait, comment ici et maintenant, en termes d'action politique. Voilà. Donc, on est passé, si vous voulez, Ces dernières années, on a beaucoup réfléchi à une question, c'est quel est le sujet politique du féminisme ? Que veut dire ce « nous » de « nous les femmes » ? Et qui parle ? Voilà. La deuxième chose aujourd'hui, je pense, une fois qu'on voilà cette question du sujet qui n'est pas, évidemment pas fermée, qui n'est pas close, c'est comment on agit ? Comment on agit et avec quel outil ? Et je crois qu'il y a une radicalisation à opérer de ce côté-là.
Alors, sur le qui est le sujet du féminisme, il y a effectivement pas mal de controverses, mais il y a aussi beaucoup d'ouvrages ou de pensées qui s'élaborent autour de la mise en évidence que, trop souvent, le sujet du féminisme, c'est la femme blanche, justement.
Bah, dans une certaine mesure, en tout cas, on donne la parole, je ne sais pas si elle la prend, mais on donne la parole en majorité à des femmes qui appartiennent à une certaine génération, qui appartiennent à une certaine classe sociale, qui ont une certaine couleur voilà, et qui ont un certain parcours. Donc de ce point de vue-là, c'est problématique. Mais aujourd'hui, je crois que peut-être, il faudrait peut-être, à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter cette question du sujet, je la trouve au bout d'un moment très problématique.
Donc il faut passer pas au répertoire d'action et
on peut pas au répertoire d'action, mais qui agit ou en tout cas c'est la question de l'agir. Peut-être qu'on se rassemblerait sur les questions des modalités d'action et non pas finalement la question qui agit, qui parle, elle peut être artificielle maintenant. En revanche, qui lance le pavé, qui casse un genou? Voilà, comment on casse un genou, vous voyez ? Ça peut être intéressant.
En même temps, ça apparaît compliqué peut-être de se rassembler avec les femmes, par exemple, non ?
Question
naïve. Il y a des clivages.
En tout cas, pour faire une action à la goutte d'or pour dénoncer le sexisme, oui, ça c'est super problématique, ça, incontestablement, vous voyez. Mais en tout cas, là, je trouve que l'intérêt des femmes, malgré tout, et j'en parle avec... c'est probablement le fait qu'elles ont changé d'action. Elles ont fait autre chose en tant que féministes. Voilà. Bon, ça interroge. Par contre, aller se mettre à poil à la goutte d'or, encore une fois, c'est certainement ni le lieu, ni le message politique que moi je partage. Mais la modalité, elle peut être intéressante.
Elsa Dorlin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ce temps avec nous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Lecture critique, un peu d'actualité éditoriale. Les pensées critiques, c'est aussi une actualité éditoriale, des livres, des articles, des revues, etc. Emmanuel, qu'est-ce que tu as lu ce mois-ci ?
Ce mois-ci, alors plusieurs choses, mais bon, je vais vous parler d'un seul livre, qui s'appelle « Les nouvelles armes de l'Empire américain ». Dans sa version originale américaine, c'est « The Changing Face of Empire », excusez-moi pour mon accent, écrit par le journaliste états-unien Nick Turse. Et un livre dont une traduction vient de paraître aux éditions La Découverte. Qui est Nick Turse ? Nick Turse est un journaliste d'investigation qui travaille sur les questions militaires et de sûreté nationale, spécialiste de la guerre du Vietnam, mais qui est aussi et surtout le rédacteur en chef du magazine en ligne TomDispatch.com, qui se présente comme un antidote aux médias mainstream. Les nouvelles armes de l'Empire américain, là dont je vais vous parler, c'est en fait une sorte de recueil sélectif de textes et d'articles publiés au cours des 3 dernières années sur ce site. Ce que nous montrent ces articles, c'est la façon dont le Pentagone et les autres agents concernés de la politique américaine travaillent au fil des jours à repenser et à peaufiner les contours de la guerre au XXIe siècle. Le terrain privilégié de cette expérimentation a été, on le sait, depuis 2 décennies, le Grand Moyen-Orient, Irak, Afghanistan, aujourd'hui le Yémen et le Pakistan, mais c'est aussi l'Afrique de plus en plus et toujours bien sûr l'Amérique latine qui reste le précaré quand même des États-Unis. Les marqueurs de la guerre du nouveau millénaire... Eux aussi, on les connaît. C'est l'usage de drones, c'est les opérations spéciales de troupes d'élite, du type des SEALs de la Navy, ceux qui ont tué Ben Laden en mai 2011, le recours régulier à des troupes supplétives privées, le cyberespionnage, la captation de données numériques, Confer, Snowden et l'affaire de la NSA. Des milliards de dollars sont dépensés chaque année par les États-Unis qui demeurent, et probablement pour longtemps encore, malgré leur rivalité croissante avec la Chine, la principale puissance militaire de la planète. D'une manière ou d'une autre, l'armée américaine est aujourd'hui présente dans presque toutes les nations du globe, écrit Nick Turse. Et là, on voit que l'usage du terme de l'Empire prend ici tout son sens. On trouve parfois le terme un peu galvaudé, mais là, en l'occurrence, l'Empire américain, on voit bien de quoi il parle. Avec des résultats concrets, ils sont donc présents. Et c'est tout l'intérêt de cet ouvrage de souligner ce décalage, des résultats concrets qui sont très mauvais. L'auteur rappelle ainsi que depuis la Seconde Guerre mondiale, à l'exception de victoires minuscules, par exemple à Panama, les forces américaines ont surtout connu des revers, sinon des enlisements durables, en Corée, au Vietnam, au Liban, en Somalie, en Irak, en Afghanistan, la liste est longue, c'est quand même pas rien. Cela tiendrait presque de la loi des rendements décroissants, explique l'auteur, qui note que plus les États-Unis consacrent de temps, d'efforts et de ressources aux opérations militaires, moins ils obtiennent de résultats. Alors l'hypothèse de Teurs est séduisante. Dans le monde du XXIe siècle, la victoire militaire telle qu'on l'entendait au siècle précédent est peut-être tout simplement devenue impossible. À cette lumière, il invite l'armée américaine à s'interroger un peu sur ses raisons d'être. Vaste programme qui serait à proprement parler une véritable révolution et dont on comprend bien la lecture de cet ouvrage qui n'est pas prêt de débuter. On comprend aussi que dans ce domaine aussi, Obama n'a pas grand-chose à envier à son prédécesseur. Voilà, ça s'appelle donc « Les nouvelles armes de l'Empire américain ». C'est de Nick Teurs, ça vient de sortir aux éditions La Découverte et ça coûte 12,90€. Voilà Nicolas, et toi ?
Mais toi, à chaque fois, tu arrives à nous parler d'un bouquin qui vient de sortir. Moi, je suis toujours un peu en retard. C'est des bouquins qui sont sortis à la fin de l'année 2012 chez le même éditeur, Éco-Société, et qui parlent de la même chose. L'un s'appelle Le Printemps québécois, une anthologie. C'est un bel ouvrage qui mêle photos, chronologie, poésie, textes de tract et textes analytiques sur le printemps québécois. L'autre est un peu plus théorique et s'appelle Un printemps rouge et noir, regard croisé sur la grève étudiante de 2012, regard croisé parce que ce sont des articles qui mêlent, qui ont été coécrits par des étudiants, des étudiantes et des enseignantes-enseignants à l'université de Montréal. Et on retrouve en fait dans ces deux ouvrages un peu le foisonnement qu'a été le printemps québécois. Chaque fois qu'il y a une mobilisation de ce genre-là, on peut penser aux mobilisations contre le CPE, on peut penser évidemment à Occupy Wall Street, aux indignés, etc. Il y a toujours plein de publications, plein de textes, de tracts, de poésie qui s'affichent sur les murs ou ailleurs dans les conversations, et puis on en perd un peu la trace. Et moi, je suis toujours bouleversé un peu par ces ouvrages qui captent un peu cette mémoire et qui essayent de prolonger un peu cette expérience et qui se disent que même si toutes les revendications n'ont pas abouti, il en restera peut-être quelque chose, au moins un bruit de fond, quelque chose qui fait que, qui sait, dans une mobilisation à venir, on se souviendra de cet exemple ou on saura s'inspirer un peu de ce souffle. Et j'en parle maintenant tout simplement parce que c'était il y a 2 ans quasiment jour pour jour. La plus grosse manif du printemps québécois, c'était le 22 mars 2012. Et ces ouvrages donc méritent d'être lus 2 ans après et gardent un peu de ce souffle et de cette force des mobilisations du printemps québécois.
Critique.
C'était Critique, l'émission mensuelle consacrée à l'actualité des pensées critiques, proposée et animée par Emmanuel Luriondet et Nicolas Héringer. Aide à la réalisation, Emmanuel Morera. À la technique, Sébastien. On se retrouve dans un mois. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur la page de l'émission sur le site www.radiogrenouille.com pour réécouter l'émission et retrouver toutes les références bibliographiques, une bibliographie d'Elsa Dorlin et d'autres textes et articles qui traitent de notre sujet. À bientôt.
À bientôt.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.